Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Heureux de vous retrouver. Je m'en venais aujourd'hui vous parler, j'avais une approche sur la gestion des relations fédérales-provinciales, quel devrait être le rôle des provinces, le rôle du fédéral. Puis très franchement, je suis presque obligé de vous parler d'autre chose. Il y a cette nouvelle abracabrantesque. Si le ridicule tuait, on serait à des funérailles permanentes pour au moins le reste de la semaine. Imaginez ça. Vous avez, et c'est à Montréal, c'est pas vrai là, que ça a l'air de toujours le plateau Mont-Royal. Là. Il y a des maisons, des bungalows qui ont ce qu'on appelle typiquement là, un garage avec une entrée de garage devant. Et à cause de la pression sur l'habitation, pour toutes sortes de bonnes raisons, certaines personnes disent « Ben, savez-vous quoi, je vais laisser ma voiture dans mon entrée et je vais convertir mon garage en espace d'habitation. » Soit pour en faire une garçonnière, soit pour faire une chambre de plus pour le petit, soit pour avoir une salle familiale. Bref, au lieu d'essayer de me magasiner une maison en banlieue, je vais pouvoir, comme ça, avoir plus de pieds carrés dédiés à l'habitation plutôt qu'à la voiture. Tout ça, normalement, devrait faire partie des excellentes nouvelles. Et l'administration publique, une administration publique responsable et intelligente, devrait poser tous les gestes pour essayer de favoriser, de créer un incitatif pour ces choses-là. Mais imaginez-vous que, dans son infinie stupidité, la Ville de Montréal a décidé que non, on va écœurer ces gens-là, puis on va leur dire « vous n'avez pas le droit ». Alors, vous avez converti votre garage en lieu d'habitation. Alors, votre entrée devant, là, vous allez devoir la condamner, vous allez la perdre. Oublions le caractère fou-raide de ça et assez dramatique pour les personnes qui vivent ça et qui découvrent ça cette semaine. Mais imaginez l'incitatif que ça, le message que ça envoie à tous ceux qui ont des garages et une entrée à Montréal et dans d'autres villes. Si je vous dis, vous savez, si un jour vous décidez de transformer votre garage en pied carré ou en pied cube d'habitation, vous risquez de perdre votre stationnement. Mais le message qu'on envoie, c'est « faites-le pas ». Alors qu'on vit la crise d'habitation la plus importante depuis au moins la dernière décennie, on pose des gestes qui sont plus animés par la haine, pas des voitures, des automobilistes, des gens, plutôt que de poser des gestes pour favoriser de l'espace pour se loger. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'on crée le désincitatif à l'habitation. Alors à un moment donné, juste vivre de slogans, c'est pas assez. Et il est difficilement compréhensible qu'on ait pu l'échapper à ce point-là, à moins que ce soit enraciné dans une inclinaison idéologique regrettable. Peut-être que d'autres juridictions municipales peuvent envoyer le bon message tout de suite en disant « chez nous, on fera pas ça ». Au contraire, si vous voulez prendre votre garage pour en faire de l'habitation, on va s'assurer de vous faciliter la vie au maximum. C'est ça, une administration politique municipal moderne. Présentement, on n'est pas là.
Passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Dans la série des nouvelles un peu bizarres puis des fois un peu troublantes, vous savez, avec la pandémie, bien des gens ont renoncé à leurs vacances, ou c'est-à-dire à voyager à l'étranger, ont décidé d'investir sur leur maison, de se donner un petit lieu de vie pour passer des vacances plus agréables, et donc se disent, tiens, je vais investir, on va se donner une piscine. Et là, on apprend dans un article du Journal de Montréal qu'il y en a, bref, qui se sont ruinés là-dedans parce qu'il y a un paquet d'extras, c'est le festival des extras chez les sous-traitants. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter de se noyer, sans faux jeu de mots, dans un projet qui devait nous rafraîchir et pas nous refroidir? Mais parlons-en avec Charles Tanguay, qui est porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Tanguay.
Bonjour, M. Lavoie.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, faites-nous un peu le portrait de... Ça me semble pourtant normalement assez simple. Là, quelqu'un m'offre une piscine, j'achète le truc, j'achète l'installation, il y a un prix clair. Où est le risque? Pourquoi est-ce que ça peut déraper, cette chose-là?
Bah, dans tous travaux, il peut y avoir des surprises. Hein? Travaux de rénovation, surtout quand on est dans le vieux, on ouvre un mur, on découvre des choses... qui n'était pas prévu. Alors là, c'est comme dans tout contrat, hein. Il faut que chaque partie soit de bonne foi et on arrête tout. Et là, l'entrepreneur vous dit, ouais, mais il va y avoir des extras. Bon, en soi, c'est pas. Il faut que ça puisse exister parce qu'on peut pas tout le temps savoir ce qui nous attend et ce qui nous pend au bout du nez. Ce qui est plus troublant dans l'histoire qui a été relatée dans le Journal de Montréal, c'est que. Pour creuser une piscine, il me semble qu'il ne devrait pas y avoir tant de surprises que ça. Maintenant, comment était le contrat initial? Ben là, c'est sûr que le consommateur a des devoirs à faire aussi. Il faut un contrat détaillé avec le maximum de composantes qui soient déjà clairement établies. Il ne faut pas qu'il y ait de porte ouverte, si on veut.
Non, mais parlons-en, parce que tous les extras ne sont pas égaux entre eux. Certains peuvent être légitimes. Par exemple, il y a ce que j'appelle les extras tant qu'à. Bon, vous êtes en train de faire ça, puis là, vous vous dites, tant qu'à faire ça, rajoutez-moi une haie ou, tant qu'à faire ça, on va se rajouter des lumières de plus. Ça, c'est votre décision pendant que vous êtes en train de faire les travaux. À la fin, ce sont des extras, mais qui ne sont pas de l'ordre de ce que j'appelle les extras où vous êtes pris en otage. Là. Vous n'avez pas toutes les informations. Puis là, on vous dit, écoutez, sinon on s'en va puis ça reste comme ça. Puis là, t'as un trou en arrière de chez vous dans lequel tu peux pas mettre d'eau. C'est quoi mes recours à ce moment-là?
Non, vous avez absolument raison, effectivement. Et quand un extra arrive, il faut que l'autre partie donne son consentement. Donc, il faut qu'il y ait une négociation. Il faut que chacun soit de bonne foi. Et c'est assez troublant de voir que des extras qui représentent 2, 3, 4 ou 5, 4 fois, je pense, le prix de la piscine soit imposé aux consommateurs. Et là, ça devient une partie de bras de fer, si je comprends bien. Ça peut ressembler à de l'intimidation. Si vous payez pas, on arrête tout ça là. On laisse un trou, puis on repart avec la piscine ou des choses comme ça. Alors là, on est dans un scénario... un peu cauchemardesque.
C'est presque de l'ordre de la... Mais ces entourloupettes-là, c'est presque de l'ordre de la fraude à ce moment-là, parce que vous mettez le consommateur face à une détresse qui est financière, psychologique. À un moment donné, ça devient envahissant dans nos vies. On n'a pas d'autres choses à faire. Est-ce qu'il y a un recours quelconque juste pour m'aider à respirer là-dedans?
Faut voir les justifications. Est-ce qu'on a découvert un terrain contaminé ou je ne sais trop? C'est dur de croire que un pareil changement au contrat n'ait pas pu être prévu et relève de la bonne foi. Alors, mais chaque cas est un cas d'espèce et on ne peut pas se substituer aux tribunaux, bien sûr, pour en juger. Mais il est vrai que dans des cas comme ça, un consommateur pourrait se retrouver carrément pris en otage.
Prenons un exemple, M. Tanguay. Par exemple, il y a un cas, le devis initial était de 18 300 $. Tous les extras ensemble, 126 000 pour un coût total de presque 150 000. Je ne sais pas, l'eau est faite en quoi, là, ou est-ce qu'ils ont décidé de changer le béton pour de l'or massif, mais ça devient difficilement justifiable.
Effectivement, et je me demande comment un tribunal jugerait la chose. Sauf que, entre se faire placer devant cette réalité-là et en sortir éventuellement, il se passe des longs mois. Il peut aussi on peut devoir payer des sommes importantes et s'il faut engager un avocat, des choses comme ça. Et ce qu'on a vu aussi dans certains dossiers, semble-t-il, c'est que des entrepreneurs peuvent aussi lever ce qu'on appelle lever une hypothèque légale de construction, c'est-à-dire faire une main basse sur votre immeuble tant que vous n'aurez pas payé. Et si l'hypothèque légale est non justifiée, c'est à vous d'aller la contester devant le tribunal. Donc, pour l'entrepreneur, c'est quelques centaines de dollars, lever une hypothèque légale, mais pour le consommateur qui veut la contester, lui, ça sera plutôt des milliers de dollars.
Alors, Alors, M. Tanguay, prenons ça morceau par morceau. Imaginons que tout le monde est présumé de bonne foi au départ, mais oui. Moi, consommateur, les gens qui nous écoutent, qui se disent, ben, je veux faire affaire avec quelqu'un, il y a toujours un risque. Quelles seraient les bonnes étapes à poser? Là? Puis là, je vais vous donner, par exemple, l'inverse. Là. Faire un chèque pour 100% du montant avant même le premier coup de pelle, c'est peut-être pas la meilleure approche. Là.
Non, c'est ça. Il faut évidemment un contrat très détaillé, s'assurer que tous les éléments ont été pris en compte et sont calculés et il y a peut-être lieu de mettre des clauses anti-extra. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, un avocat pourrait nous dire.
Est-ce que
ça.
Vous avez des recommandations sur, par exemple, vous devriez structurer les paiements selon certaines
Tout
étapes?
Fait.
Une fois que le trou est fait, je vous paie tel pourcentage. Une fois que, maintenant, c'est souvent des coques là, qui sont installées, bon, mais un autre pourcentage. Une fois qu'on est rendu à telle étape avec la filtration, tout ça, c'est fonctionnel, tel pourcentage. Parce que sinon, puis c'est normal que le contracteur veuille se faire payer pas juste 100% à la fin aussi. Là.
Oh, en rénovation, c'est ce qu'on recommande très fortement, c'est-à-dire on verse le plus petit montant de dépôt possible avant le début des travaux. Et on prévoit déjà au contrat un calendrier de déboursé progressif qui se déroule au fur et à mesure que les travaux avancent. Donc, il faudrait même prévoir, fixer précisément les étapes des travaux et le pourcentage auquel ça correspond pour des paiements progressifs. Comme ça, si le chantier, pour X ou Y raison, doit s'arrêter parce qu'on ne s'entend plus avec l'entrepreneur, eh bien, à ce moment-là, qu'on a payé correspond à peu près aux travaux pour lesquels aux travaux qu'on a eus. Donc, on pourrait repartir avec un autre entrepreneur et tout n'aurait pas été perdu. Mais effectivement, ça ne nous met pas nécessairement à l'abri d'entrepreneurs de mauvaise foi qui iraient avec des extras qui nous tiendraient à la gorge.
Bon, mais partons de ça, là. Quels seraient les quelques trucs généraux qu'on peut donner aux gens? Donc, par exemple, si un entrepreneur vous exige payer 100% du montant avant le premier coup de pelle, dites, c'est la fin de la conversation, merci beaucoup. Je vais aller voir quelqu'un qui essaye pas de m'enfiroiper avant même qu'on commence. Comment je fais pour vérifier? Il y a un paquet d'entrepreneurs, ils ont toutes sortes de noms. Des fois, on peut changer de nom rapidement. Comment je fais, moi, pour maximiser mes chances de faire affaire avec un entrepreneur de qualité?
Il n'y a pas de recette miracle, mais les vérifications d'usage. On google le nom, on vérifie sur le site jugement.qc.ca, voir s'il y a eu des recours devant les tribunaux contre...
Est-ce qu'on peut faire ça gratuitement?
Gratuitement, oui. Jugement.qc.ca. La régie du bâtiment, évidemment, vérifier s'il a les licences appropriées et s'il a fait l'objet de plaintes. Sur le site de l'Office, on a une rubrique qui s'appelle « Se renseigner sur un commerçant ». Et là, vous pourriez voir, par exemple, si cette entreprise a fait l'objet de mise en demeure de la part de consommateurs. Alors, toutes ces vérifications-là doivent être quand même assez extensives et complètes avant même de commencer. Et malgré tout, ce n'est pourtant pas une garantie à 100%. Donc, on demande aussi des références. Avez-vous d'anciens clients qui sont prêts à me parler pour dire qu'ils ont été satisfaits
faut pas,
des choses
faut pas
comme ça.
Gêner d'appeler des anciens clients. Là. Comment ça s'est passé?
Exactement.
Et c'est souvent pas juste dans est-ce que la piscine était là? Est-ce que ça a été le festival de l'appel, Exactement. Du rappel, du quatrième courriel pour avoir une réponse? Ça aussi, ça compte.
C'est ça. Et malgré tout, une entreprise peut changer de main, une entreprise peut changer de nom. Alors, il faut rester tout le temps très méfiant, surveiller aussi les travaux quand ils se déroulent. Et puis, le malheur dans tout ça, c'est qu'avec la rareté de la main-d'œuvre, la pression de demande très forte, les bons entrepreneurs, souvent, ils sont pris. Certains prennent même pas la peine de vous rappeler pour vous faire une soumission parce qu'ils sont déjà débordés. Alors, il faut parfois prendre son mal en patience, puis peut-être... attendre le bon moment pour... Si on n'est pas certain de l'entreprise avec laquelle on fait affaire, vaut peut-être mieux attendre un peu puis continuer à chercher.
Et ça, c'est peut-être le conseil cardinal dans tout ça. Mieux vaut pas de travaux que des travaux avec un entrepreneur dont vous n'êtes pas sûr. Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Avec Guillaume Lavoie, pas de détour. Seulement un lien direct vers des solutions logiques.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bonjour Luc.
Jean-Guillaume, bonjour.
Alors Luc, c'est très drôle parce que aux États-Unis, quand on veut tester la température de l'eau pour une éventuelle campagne présidentielle, on sort des livres. Et on met dans notre livre des déclarations qui sont des petits avertissements à l'un et à l'autre. Mais là, Mike Pompeo, qui a été le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, qui pense aussi, lui, un peu, en tout cas, il y a des rumeurs à la présidence, sort un livre et là, il commence à y avoir toutes sortes de petits bouts, à tout le moins, pour vendre son livre, là, pour nous intéresser ou vendre vraiment en faire un succès, là.
Écoute, nous étions plusieurs à espérer, à attendre la sortie de ce livre parce que peu importe l'idéologie, peu importe l'orientation politique, Mike Pompeo a une carrière politique et un parcours personnel qui mérite notre attention, je pense, ne serait-ce qu'en fonction de ses deux dernières responsabilités officielles. C'est rien de moins que le directeur de la CIA sous Donald Trump. Et il est passé de... écoute, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont fait ça dans toute l'histoire des États-Unis. Il est passé de là à secrétaire d'État. Donc, il était au cœur d'un certain nombre d'événements. Et il est toujours demeuré, malgré des périodes de froid. À tout le moins, en tout cas, les médias nous rapportaient qu'ils étaient à l'occasion en froid. Il est toujours demeuré fidèle à Donald Trump. Donc, on se disait, ben c'est intéressant de revenir sur la carrière d'un homme comme celui-là. Puis le titre, ben, on essaie toujours de se démarquer, c'est accrocheur. Le titre, c'est « Never give up », en « N'abandonnons jamais ». Puis ensuite, ben, « Les États-Unis que j'aime ». Donc, le livre est paru mardi. Bien entendu, tu l'as dit, on fait la mise en marché de tout ça. On envoie ça à des journalistes avant pour qu'on puisse se familiariser avec l'ouvrage, de sorte que dès la parution officielle, on puisse commencer à le commenter. Et mardi, ben les alertes sur mon téléphone, ça s'est littéralement déchaîné parce que j'avais d'alertes de la plupart des plateformes d'information, aussi bien les sources d'information plus conservatrices que les plus progressistes. Et il y a pas beaucoup de gens qui sont demeurés insensibles ou qui ont passé les déclarations dont je voulais te parler sous tapis. Et il revient, écoute, c'est un événement dans une carrière, mais c'est pas banal, il revient sur l'assassinat d'un citoyen d'origine saoudienne, mais qui travaillait pour le Washington Post.
Ça, c'est Khashoggi, là, qui aurait été, selon la thèse, il avait été arrêté et découpé littéralement en morceaux, là, littéralement, voilà. Par les frotteurs de MBS, le nouveau leader de l'Arabie saoudite. Là.
Voilà. Donc, écoute, ça ne s'invente pas. L'information qu'on a validée, ce dont disposent les Américains, ce sont des informations qui proviennent de l'étranger, mais validées et certifiées par la CIA, par les propres services de renseignement américains. Et ce qu'on disait pour nos auditeurs, Khashoggi est assassiné alors qu'il va chercher des papiers, il veut des formulaires pour son mariage. Sa conjointe est dans la voiture et il est en Turquie, pas en Arabie Saoudite. Il est en Turquie, mais au consulat d'Arabie Saoudite. Et il n'en est jamais ressorti. On n'a jamais retrouvé le corps d'ailleurs. T'as fait état des détails scabreux et horribles des circonstances dans lesquelles il est assassiné. Pourquoi on revient sur ça aujourd'hui? C'est que Pompeo, tout comme Donald Trump à l'époque, on a dit qu'on avait été choqué par l'incident. C'est la moindre des choses. On sait qu'avec l'Arabie Saoudite, c'est très difficile pour les Américains de naviguer parce que c'est un des alliés les plus compliqués à gérer. Il faut très souvent fermer les yeux ou ignorer des choses pour aller de l'avant avec un partenaire qui stratégiquement est primordial pour les Américains. On a vu Joe Biden, d'ailleurs, qui avait promis de semoncer vertement Mohamed Ben Salman, y aller d'un fist bump, hein, point à point comme salutation. Donc, Pompeo dit quoi au sujet de ça? Il dit pas que M. Khashoggi est un bon gars, mais ce qu'on a l'impression, ce que ça nous laisse la lecture comme impression, c'est Khashoggi a couru après. Khashoggi n'est plus un journaliste dans les mots de Mike Pompeo. Khashoggi, c'est un activiste qui ne faisait que provoquer le régime. Puis grosso modo, bon, on n'est pas dans un monde d'agneaux. Hein? Il y a un certain nombre de loups et peut-être plus qu'on pense. Et Khashoggi, ben, a payé le prix de sa résistance au régime saoudien. Il va plus loin que ça. Non, il le discrédite quasi totalement. Et en plus, il dit, si tout ça est devenu grave, c'est de la faute des journalistes. Donc, si toi et moi, on s'offusque ou on s'indigne du fait qu'on a découpé un homme qui était en Turquie, mais que c'est une commande d'un autre pays, l'Arabie Saoudite, et que ça vient du sommet de la tête de Mohamed Ben Salman, si nous, si toi et moi, on s'indigne de ça, c'est parce qu'on est victime, bien entendu, d'un complot médiatique ou des progressistes. Parce que les progressistes aux États-Unis, les autres aiment Mohamed Ben Salman, mais les progressistes dans la bouche de Pompeo le démonisent, Mohamed Ben Salman, et en même temps sont beaucoup trop sympathiques à Khashoggi, et là, c'est la cerise sur le sundae. Pour M. Pompeo, Khashoggi serait même un membre, en tout cas, accoquiné à la Société des Frères musulmans. Les Frères musulmans qui est une organisation qu'on a qualifiée, étiquetée comme terroriste à plus d'un endroit sur la planète.
Donc, ceux, qui pensaient, bien des gens se sont, oui. ceux qui pensaient que Mike Pompeo serait peut-être, rhétoriquement parlant, un personnage d'un républicain responsable, trempé dans le sens de l'État, oubliez ça, là. Lui, il veut être Trump à la place de Trump.
Ben voilà, je référais dans un texte ce matin à Is No Good, pour ceux qui, les amateurs de bande dessinée, Is No Good. Hein,
explique-le, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît la bande dessinée, puis ça vaut la peine que les gens la connaissent, vas-y.
Ben, grosso modo, ce qu'il veut faire, c'est être calife à la place du calife. Alors, Mike Pompeo est devenu pour moi le Is No Good américain. Il veut être calife, il veut être Trump à la place de Trump. Mais ce que ça montre plus sérieusement, c'est qu'on a déjà évoqué ça, toi et moi. Bon, M. Trump n'est pas disparu. Dans les sondages, il est bien en selle. Ça ne veut pas dire qu'il gagnerait une présidentielle. Ça veut dire que les républicains ne peuvent pas le tasser. Dans l'éventualité où M. Trump, arrêté, accusé ou vaincu, ne serait pas là, ce que M. Pompeo fait, c'est que tu l'as mentionné sous cette formule-là tout à l'heure, il teste l'eau. Est-ce que j'ai des chances? Est-ce que j'ai des prétentions? Et en même temps, ben, si je veux être le candidat républicain, je ne peux pas me mettre à dos. Je dois trouver une façon de courtiser les Trumpistes. Et il y a une recette Trump. Donc, désinformer, mentir, exagérer, insulter, accuser les médias. C'est une formule éprouvée. M. Trump a montré qu'il la maîtrisait et qu'on pouvait parvenir à un certain seuil de réussite. Pompeo joue exactement dans les mêmes eaux. Moi, je pense qu'on n'a pas le même genre de bête politique. Je pense qu'il a une stature puis une expérience politique beaucoup plus importante que M. Trump. Mais on voit en tout cas que la marque Trump ou que le Trumpisme, ça va continuer à sévir et ça va continuer à être un passage obligé pour ceux qui vont prétendre au trône républicain éventuellement.
Oui, il y a des... Ronald Reagan doit se tourner dans sa tombe plusieurs fois en voyant ça.
Ah, j'y ai pensé régulièrement.
Oui. C'est fou, ce parti-là aujourd'hui, très, très Ronald Reagan, de Rhino, de faux républicain. C'est pas un vrai. C'est quand même assez extraordinaire. Woke. Oui, oui.
Ronald Reagan est un woke, Guillaume.
Écoute, je veux qu'on parle de... Et la chose était un peu comique. C'était, je voyais ça dans les manifs, là, libérer les léopards. Vous n'êtes pas à National Geographic. Ouais. Non. C'est le conflit en Ukraine. Et là, il a fallu un peu tordre le bras des Allemands pour qu'ils finissent par laisser d'abord les autres fournir des chars d'assaut. Là, les Américains vont envoyer aussi des chars d'assaut, mais c'est pas du tout les mêmes. Tous les chars sont pas égaux entre eux. Ils fonctionnent vraiment au kérosène, là, presque au carburant d'avion. Puis, en fait, je te poserais la question comme ça, Luc. Les Russes ont des centaines de chars d'assaut. La Pologne se propose d'en envoyer 18. Peut-être que tout ça ensemble, ça va en faire 50-60, là. Ça va-tu vraiment changer la donne ou on est dans la symbolique?
Non, mais je pense qu'on est plus que dans la symbolique. D'abord, c'est important de souligner la rapidité avec laquelle l'Allemagne s'est retournée. Ça veut dire que dans les rencontres, les tractations, puis soyons clairs, il y a eu des bras de fer entre les alliés. Les Allemands ont obtenu, semble-t-il, ce qu'ils voulaient des Américains. Pas plus tard qu'en début de semaine et même la semaine dernière, M. Austin, qui est le secrétaire à la Défense, avait dit « les fameux Abrams auxquels tu référais, les chars américains, on n'enverra pas ça en Ukraine, ça ne sert à rien, c'est trop capricieux, c'est pas pour ce genre de terrain. » Et tu faisais référence, entre autres, à la problématique d'alimentation en carburant. Et soudainement, les Américains se retournent et on en envoie, ces fameux chars, les Abrams. Donc, ça veut dire que les Allemands ont dit, OK, on a compris, là, on va envoyer les Léopards et surtout, on va permettre aux pays qui disposent de Léopards, on va leur donner l'autorisation d'acheminer des chars. Tu référais donc à la Pologne, c'est probablement le pays le plus proche. Il y a la Finlande également qui dispose de Léopards. Ça va arriver sur le terrain.
Le Canada en a, les nôtres, mais... un... Je pense qu'on en a quelque chose comme 80, mais la grande question, c'est il y en a combien des Léopards canadiens qui roulent encore, qui ne sont pas sur les blocs, là?
Qui fonctionnent. Donc il y a d'abord, on sentait un foie et une certaine division, on semble être revenu à une forme de cohésion. Pourquoi ça change aussi vite que ça? Ben là, on est un peu dans les projections, mais assurément, on sait que les Russes préparent une offensive pour le printemps. Les chars, on s'entend, toi et moi, pour dire, est-ce qu'il y en aura suffisamment? Puis d'un autre côté, ils n'arriveront pas pour être opérationnels pour la fin de semaine ou pour la semaine prochaine. Le temps qu'on a, qu'on achemine ça, qu'on se les approprie, puis qu'on les rende vraiment opérationnels sur le terrain, on parle de plusieurs semaines. Entre autres, pour les Abrams, les Américains avaient bien souligné, c'est très difficile de s'approprier le fonctionnement des Abrams.
C'est comme n'importe quoi, là. Il y a un cours pour apprendre à manipuler ces choses-là, là.
Voilà. Et ce que je remarque, donc je disais, soit on sent que l'Ukraine peut progresser, puis peut-être même éventuellement parvenir à la victoire, ou encore on veut s'assurer que cette offensive russe, on puisse l'endiguer. Mais j'ai même lu tout à l'heure, avant d'entrer en onde, écoute, les Pays-Bas offrent ou évoquent la possibilité maintenant de mettre des avions dans le ciel, et on parle de F-16. Donc, des choses qu'on n'a jamais...
Ça change la donne beaucoup, là. Là, on est ailleurs.
Énormément. Et la réaction du Kremlin, c'est pas fait attendre. Ce qu'on a dit très, très rapidement, c'est écoutez, c'est une solution, c'est une mauvaise solution. Puis bien sûr, on va référer à une escalade. Et cette escalade-là, elle est bien réelle. Bien sûr, M. Poutine ne peut pas dire j'ai rien à voir là-dedans, tout est de la faute des pays de l'OTAN ou des alliés de l'Ukraine. Mais reste donc qu'on sent qu'il y a un mouvement très, très important. Est-ce que ça se déroulera avant cette fameuse offensive du printemps? Mais assurément, on a changé de cap. On a changé de stratégie ou de direction. Il y a quelques semaines, avant la période des fêtes, toi et moi, on s'entretenait et on disait, on sent la réserve. Hein, on finance l'argent, mais on n'est pas prêt. On envoie de l'argent, puis on envoie quelques missiles, mais on ne va pas plus loin.
Ça, on voulait
quand on est rendu à évoquer des F-16.
On voulait que l'Ukraine ne perde pas. Là, penses-tu qu'on a franchi en disant, non, maintenant, il faut que l'Ukraine gagne? C'est pas la même chose, là.
Ben, soit on craint vraiment, on a des informations de nos services de renseignement qui disent que l'offensive russe peut être pire que ce qu'on avait envisagé. Elle est peut-être plus dommageable que ce qu'on envisageait. Ou encore, ce que tu viens d'évoquer, c'est un autre scénario possible. On pense que l'Ukraine peut gagner. Et maintenant, on est, j'aime pas l'expression, c'est anglophone, mais on est « all in ». On y va au maximum de ce qu'on peut mettre à la disposition de l'Ukraine sans être nous-mêmes sur le terrain.
Alors, on va voir ça. Écoute, on va se reparler de cet enfant là, de 6 ans qui est devenu lui-même meurtrier. Là, on n'a pas assez de temps, mais je dis aux gens, c'est sûr qu'avec Luc, on va en reparler parce que les gens nous ont écrit là-dessus. C'est une autre tragédie sur quelque chose d'infiniment tragique.
Oui, puis il y a eu des développements juste avant qu'on se parle, donc on aura l'occasion d'y revenir cette semaine.
Ça marche. Luc, la liberté, merci beaucoup. On se reparle, merci.
Bonne journée, Guillaume.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde dans tous ses états. Cube Radio.
Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Steve Fortin, Marie-Mon Petit, bonjour.
Bonjour.
Bon, Marie qui est en studio, Steve qui est chez lui en Outaouais. Alors, Marie, vu que t'es là, hein, d'abord, priorité à la présence, hein, Steve, le message est passé. Mais là, je peux pas faire autrement. Alors, c'est le caucus du Parti libéral du Québec. Et là, le chef intérimaire, Marc Tanguay, a fait une mêlée de presse dans laquelle il avait l'air pas mal mêlé. Parce qu'il est allé dire que finalement, le problème... c'est qu'il va falloir que le PLQ, et là je le cite, simplifie son message. Fait que, peux-tu nous dire qu'est-ce que moi et vraiment beaucoup de Québécois, on n'a pas compris, là?
Écoute, j'ai trouvé ça tellement poche comme déclaration. J'ai plein de synonymes qui me viennent, mais je pense que c'est le plus simple. Mais c'est tellement une mauvaise évaluation du problème. Tu sais, l'enjeu, c'est pas de simplifier le message, c'est d'en avoir un.
Ben oui.
Puis là, En plus de mal cerner le problème, c'est comme si dans ce message-là, ce qu'ils disent, c'est ben les Québécois ne nous ont pas compris. Tu sais, les électeurs sont un peu des imbéciles. Donc, comme notre message était complexe, brillant, élaboré, structuré, ben ils l'ont pas compris. Donc là, comme on va simplifier notre message pour que la plaie, ben, que toi et moi on comprenne d'ailleurs, parce que moi non plus, j'ai pas tout compris dans la dernière campagne électorale, il s'en allait.
Moi, j'écoutais la position du Parti libéral du Québec sur le geste de Justin Trudeau de vouloir référer à la Cour suprême pour la clause non-obstant. Je n'ai pas compris ça non plus.
Non, mais c'est ça. C'est, l'enjeu, c'est qu'ils disent les gens, Marc Tanguay dit, les gens n'ont pas compris où le PLQ s'en va, alors que, si tu veux mon avis, je pense que le PLQ lui-même ne sait pas où il s'en va. Puis ça a été ça dans la dernière législature. On l'a vu avec Dominique Anglade comme chef qui changeait tous les jours à peu près de proposition. Au niveau des propositions en français, au niveau des propositions en nationalisme, au niveau de l'environnement. À un moment donné, tu peux pas blâmer les gens de plus te suivre quand tu changes de voix à toi et tous les quatre heures.
Ben regarde, Steve, toi, tu habites dans la seule région en dehors de Montréal où il y a des élus du Parti libéral. Il y en a un. Fait, qu'est-ce que vous autres, vous avez compris que les autres n'ont pas compris, là?
Ben, je suis content qu'on parle de ça parce que, tu sais, oui, j'ai plusieurs amis proches qui sont des militants dévoués, même de longue date du Parti libéral. Je vais faire juste un petit aparté, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que je parlais récemment avec Henri Hébert, c'est l'ancien maire de Papineauville. Puis pour le journal local, il y a une année, à peu près un an de ça, j'avais rencontré Henri. Il prend de l'âge, puis je voulais prendre de ses nouvelles et... Il était revenu, ça m'avait bien fait rire, il était revenu sur une assemblée d'investisseurs qu'il avait eue. Moi, j'habite le comté Papineau, puis c'est l'ancien fief, bien entendu, de Norm MacMillan. Norm MacMillan gagnait ici ses majorités à 55-58%. On s'entend, là, c'est un fief. Puis, à un moment donné, il avait fait l'assemblée d'investisseurs. Il y a un petit bout du comté qui est un peu qui est rentré dans Gatineau maintenant. Buckingham, ça fait partie de Gatineau. Puis Henri est encore fâché presque 40 ans plus tard parce qu'il disait, ou 30 ans plus tard, il disait, ils ont fait exprès, ils ont fait l'investiture à Buckingham, puis le monde de la petite nation pouvait pas descendre, il neigeait, puis là, tu sais, les histoires de même, là. Quand je reparle avec Henri Hébert aujourd'hui, la première question que j'avais posée l'année passée, c'était juste avant les élections, j'avais dit, tu vas-tu voter libéral, Henri? Puis il voulait pas répondre. Il me le disait pas. Je disais, ben voyons, c'est la même chose avec
c'est,
d'autres.
Ça, c'est comme les militants là, presque élevés dans le creuset du Parti libéral du Québec, oui, qui a toujours été là, rouge de chez rouge. Puis là, il dit, non, je suis pas sûr.
Et là, quand j'en ai parlé aussi à d'autres amis qui étaient dans l'organisation libérale, des gens que je respecte beaucoup, d'autres m'ont dit carrément, la position de François Legault, à partir de 2018, puis ça s'est poursuivi après, cette espèce de nationalisme mou-là, mais qui avait pas peur de se dire fédéraliste, puis même, François Legault, on l'oublie, mais il a dit à plusieurs reprises quand on l'a questionné, moi, je voterais non à un futur référendum. Il l'a fait, ça. Et puis, pour des gens comme ici, dans ma région, pour ces nationalistes-là, ben François Legault, il a courtisé ces gens-là, puis il a gagné. L'autre affaire, c'est que dans le comté d'à côté, à Gatineau, en 2021, ils sont allés recruter l'une des femmes, je trouvais en tout cas une candidate de choix. Carol Green, c'est l'ancienne préfète de la MRC là-bas, ancienne mairesse de Chelsea, appréciée. J'ai beaucoup d'amis qui habitent ce comté-là, la section rurale, la partie rurale notamment. Puis, il y avait beaucoup d'espoir. Écoute, c'est un ancien libéral qui là-bas depuis, qui bat les libéraux depuis M. Bussière, qui est là-bas, l'ancien maire de Machamp, si je me souviens bien, Sainte-Cécile de Machamp. Mais tu sais, je veux dire, les libéraux, à un moment donné, quand ils se sont perdus, quand ils ont perdu leur message, ils ont perdu le contrôle de leur message quand François Legault est arrivé et a réussi à courtiser des gens qui étaient rouges de chez Rouge chez nous et qui se sentent à la maison, à la CAQ maintenant, et qui n'ont pas l'intention de partir. Et quand on dit que le message sur la dérogation s'est mêlé, là, Antoine Robitaille, notre collègue Antoine Robitaille, Marc Tanguay qui dit c'est sans précédent de cette façon de faire préventive avec...
Oui. Écoutez, Antoine a dû y dire, c'est parce que Robert Bourassa l'a fait.
Ben oui, tu sais, 17 fois sur 18 que Robert Bourassa l'avait fait. Je veux dire, il avait utilisé la dérogatoire de façon préventive. Ça fait le message, ils ont perdu le contrôle parce que justement, ils sont carrément pris dans un étau entre un électorat qui est carrément, si on veut, là, un peu L'électorat, disons-le, là, du West Island, l'électorat anglophone qui courtise, puis un électorat plus nationaliste qui était aussi, qui trouvait aussi sa place dans le Parti libéral, dont plusieurs maintenant n'y trouvent, n'y sont absolument plus.
Ouais, c'est là, là, c'est rendu que la CAQ aurait des assises solides dans l'Outaouais, qui était une bonne terre là, pour des labours libérales. Les autres du caucus, là, quand ils entendent ça, ils se disent-tu... Hey, nous autres, ça va bien nos affaires. Ben, c'est ça. Là,
tant qu'à rester en Outaouais et à parler de cohérence, oui, et de messages divergents, deuxième journée du caucus précessionnel du PLQ. Ah, ben là, on a un député qui va dire d'autres choses. Donc, hier, on a le chef par intérim, Marc Tanguay, qui dit, puis je dis pas que c'est pas une brillante déclaration, mais c'est quand même lui, le chef par intérim. C'est lui qui était censé avoir fait un récapitulatif puis une synthèse. Ils sont en caucus précessionnel, là. Ça sert à ça, là, faire des constats, se donner leur juste. Il dit, on a un problème de message. Et là, aujourd'hui, on a André Fortin, député de Pontiac, qui, lui, sort en disant, ouais, finalement, c'est pas juste la simplicité du message, le problème. Il y a d'autres choses. Puis c'est très, très juste. Sa lecture est très juste. Mais voilà encore un autre message envoyé tout croche, tu sais. Puis tu vois, moi, Steve, j'ai l'impression que le PLQ, là, où ils l'ont perdu, c'est sur la question de la cohérence. Tu sais, quand tu parles du PQ, tu sais c'est quoi le PQ, tu sais c'est quoi leurs enjeux. Moi, là, je pense qu'on est capable, à la gang, de faire des prédictions pour d'ici de la prochaine élection de 2026, ça va être quoi les enjeux puis les clous sur lesquels va taper le PQ. La CAQ, c'est pareil. Québec solidaire, c'est pareil. Le PLQ, là, et moi, là, j'ai été impliqué, on s'entend, là, pendant 25 ans au Parti libéral du Québec. J'ai été députée. Pendant 8 ans du Parti libéral, j'ai été ministre. Oui, ministre. J'aurais de la misère à te dire aujourd'hui, oui, là, parce que justement, t'as particulièrement Dominique Anglade, je sais pas que je veux parler d'elle seulement, mais ça a été ça son enjeu, c'est qu'un matin, puis c'est vrai qu'il y a un enjeu de caucus interne où elle se fait tirer d'un bord puis de l'autre, mais la job d'un chef à un moment donné et la job des membres d'un caucus aussi, c'est d'avoir un seul message qui est cohérent, qui permet aux électeurs, aux citoyens de comprendre c'est quoi le parti en question. Là, on sait pas.
Là-dessus, il y a quelque chose, je veux revenir un petit peu en arrière. Philippe Couillard, dans le débat, parce que bon, on a eu le débat sur le projet de loi 60, hein, la charte des valeurs. Ensuite, le projet de loi 59 du Parti libéral, Philippe Couillard. Et là, on avait senti qu'il y avait un virement, mais vraiment identitaire, pro-multiculturalisme à fond. Marc Tanguay est là-dedans. Et puis, moi, je peux te le dire, là, ici, moi, quand je parle à des gens, justement, là, les gens dont je te parle dans mon comté, là, Bouchard-Taylor, il était d'accord avec ça. Puis des enseignantes, dans les écoles, on n'en veut pas de signes religieux, il était d'accord avec ça. À la limite, il aurait vécu avec Bouchard-Taylor, mais la position très radicale de Philippe Couillard sur ces enjeux-là, puis on se souvient des affaires qui se passaient dans ce temps-là, j'aurais pas de problème à travailler avec quelqu'un qui est radicalisé, puis tout ça, je veux dire, ça a laissé des traces. On a beau... Cette question-là identitaire au Québec, elle va toujours être importante. Puis le Parti libéral, en se radicalisant sur cette question-là, ben, il s'est aliéné une partie de l'électorat, notamment en région, des régions qu'il détenait avant.
Mais là, j'ai une question pour vous deux, là. Moi, j'appelle ça le problème du sirop d'érable. Hein. Quand tu fais du sirop d'érable, tu as de l'eau d'érable. Puis là, tu fais bouillir ça, puis il en reste toujours de moins en moins, mais c'est toujours de plus en plus concentré. Je suis pas sûr qu'on a la bonne concentration, mais
j'ai hâte de voir où tu t'en vas.
Non, mais là, vous allez m'expliquer comment le Parti libéral peut se reconnecter avec une base à qui il ne parle jamais. Ils n'en ont pas de députés dans ces coins-là. Les membres ne sont pas là. Alors, ils viennent d'où, là, les gens à l'intérieur du Parti libéral pour dire, ben, je pense qu'on devrait voir ça différemment?
Ben, t'as des militants, là, je veux dire, tu sais, ça, c'est réduire ça à, c'est comme si tu disais, le Parti québécois sont juste trois, sont juste dans l'Est du Québec, dont aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais, à l'autre bout. C'est comme si tu disais, ben là, le Parti québécois parle plus à l'entièreté des Québécois. Je veux dire, il y a des gens qui ont voté pour l'ensemble des partis dans les 125 circonscriptions. Donc, après ça, c'est sûr que c'est gardé, là, va falloir que les 19 députés, les 18 de Montréal du Parti libéral du Québec sortent un peu de leur circonscription. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que t'as pas d'élu dans une circonscription, que t'as pas de militants, que t'es pas capable de garder un lien avec la base. Mais ça, c'est un élément. Il va falloir que le discours général, tu sais, puis là, c'est pour ça que j'en reviens, ils sont en caucus précessionnel. C'est important, un caucus précessionnel. C'est là que tu fais tes points de presse, c'est là que tu lances un peu ta vision pour les 4 prochains mois, pour ta rentrée parlementaire qui a lieu la semaine prochaine. On peut pas dire que c'est bien, bien extraordinaire comme message qui est sorti du caucus. Puis c'est, oui, je comprends, Marc Tanguay, c'est un chef par intérim, il peut pas aller, t'sais, plus loin, puis il y a une course à la chefferie qui va se mettre de l'avant, puis ça, il faudrait qu'on en reparle de la course à la chefferie au Parti libéral, d'ailleurs. Mais
là, la sortie d'André Fortin, est-ce que c'est... T'sais, si quelqu'un voulait être candidat à chefferie, c'est à peu près ça qu'il ferait, là.
Ben oui et non, parce que oui, mais en même temps, tu vois, il dit, indirectement, il a dit, je teste les appuis. Il faut des appuis pour se présenter comme chef du Parti libéral, mais je dis ça, je dis rien, là. Ouais, donc,
Montréal est une île aussi, là.
Je pense qu'il teste un peu le terrain. Il attend de l'amour.
Qui c'est qui va y aller à la chefferie, là?
Ça prend des gens sur le terrain. C'est pas grave que, par exemple, quand Alexandre Iraka, qui était un ancien président de commission scolaire ici, qui avait gagné le
qui était député de Papineau.
Le dernier libéral en Papineau. 50% en 2014. La candidate Whitlyn Kate Somerville pour les libéraux, la dernière fois, 8%. Ça prend des gens, ça prend une organisation. Il n'y a plus d'organisation sur le terrain. Mais il reste des libéraux. Puis André Fortin, en Outaouais, il a une très bonne réputation. Donc, il me semble qu'il y a assez de libéraux en Outaouais pour être capable de reconstruire ça. D'ailleurs, M. Bussière, pendant son dernier mandat, son équipe de comté, là, se sont carrément rebellés contre lui. C'est tous des anciens libéraux qui sont passés à la CAQ avec lui. Écoute, moi j'ai entendu là, au 104.7 ici la radio une radio concurrente là, la gang de Cogeco, la personne qui s'occupait du financement dans son comté disait nous on n'en peut plus, on veut retourner au Parti libéral tout ça. Je veux dire, pourquoi ne pas profiter de ça? Il y avait des gens qui étaient là qui disaient nous on est prêt à venir. T'sais, toute son organisation de comté était prête à faire le saut pour aller de l'autre côté.
Ouais, mais faut que tu saches, Steve, avoir des organisations, la CAQ n'est pas réputée pour avoir des organisations locales dans ses circonscriptions, puis ils ont quand même fait élire 80 députés. Faut aussi que tu aies un message. Faut que tu saches où tu t'en vas. Faut que tu inspires. Faut que tu passionnes les gens. Faut que les gens te fassent confiance puis aient envie Puis ça, tant que ce ne sera pas au rendez-vous, le PLQ aura beau avoir les meilleures organisations sur le terrain, ce qui n'est pas le cas et ce qui va très, très loin d'arriver.
Là-dessus, on va tous s'entendre. Tu peux pas convaincre personne si toi, tu n'as pas l'air convaincu.
Ben, ils n'ont pas l'air convaincus. Ils ne sont même pas convaincus au sein du même caucus.
Ben là, ça a l'air que je parlais à Rémi Nadeau, qui est notre chroniqueur à Québec, qui disait que dans leur caucus, là, il y a une période pour aller patiner. Ils sont mieux de se grouiller parce qu'avant que la glace fonde.
C'est comme une image ou c'est un.
Non, il y a vraiment cette activité. Ils vont faire de la glissade, donc ça, c'est vers le bas, et ils vont patiner. Les analogies sont pas flatteuses.
Il y a plein de jeux de mots qui sont.
Bon, Steven Fortin, Marie-Mont Petit, gardez-en pour.
J'espère que le caricaturiste qui va reprendre
c'est ça. Mais écoutez, là, ils sont trois jours en caucus de précessionnel. D'après moi, il va nous rester encore du réservoir, d'essence dans le réservoir pour d'autres chroniques. On s'en parle. Merci beaucoup.
Bye.
Guillaume Lavoie, un talent de conteur indéniable. Avec lui, l'actualité sonne comme de la poésie.
Sous les intempéries de la nouvelle, frissonne le monde et le soleil alimente le champ des faits divers.
Guillaume Lavoie.
Des fois, on regarde aux États-Unis puis on se dit on est vraiment chanceux de vivre dans une société où il n'y a pas ces manifestations de violence, mais c'est pas toujours vrai parce que là, il y a eu, imaginez ça, en avant d'une école, une agression au marteau, à coups de marteau. Et c'est arrivé devant l'école Calixa-Lavallée à Montréal. Et là, il y a une vidéo qui est sortie où on voit des suspects en train d'essayer de se sauver. Alors, pour en parler, parlons avec André Durocher, qui est inspecteur du SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, à la retraite. Bonjour, Monsieur Durocher.
Bonjour, Monsieur Lavoie.
Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous, en gros, rappelez-nous les faits, aussi terribles soient-ils, et comment ça se fait qu'on a une vidéo de ça maintenant?
Ben, en fait, c'est la question que je me pose, parce que j'ai vu la vidéo également. On voit qu'on a quatre suspects qui agressent un jeune homme. Et des questions que je me suis posées immédiatement, qui sont ces jeunes hommes, évidemment, mais il y a également ce qu'on voit, c'est qu'un, il y a visiblement une personne qui filme, mais deux, si on marche sur la vidéo, il y a une cinquième personne, quelqu'un qui semble être plus ou moins passive, un petit peu là, à droite de l'écran. Donc, c'est préoccupant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, en fin de compte, qui sont potentiellement là, des témoins de cette scène-là. Et ce qu'on va faire probablement au cours des prochains jours, c'est certain que les policiers, l'école Calixa-Lavallée, bon, ils connaissent le monde-là, connaissent les profs. Ils vont regarder en fonction de l'historique qu'il y a. Par exemple, souvent, c'est pas le premier incident ou conflit qui peut survenir dans cette école-là. Les jeunes, on sait, ça parle beaucoup entre eux. Même si c'est pas des étudiants de l'école, on va selon moi, assez rapidement être capable d'établir c'est quoi le motif. Est-ce que c'est une histoire de drogue? Est-ce que c'est une histoire de cœur, de fille? Peu importe, là. Mais ce qui est préoccupant, par exemple, à coup de marteau, c'est assez barbare, quand on y pense.
Oui, puis plusieurs, là. C'est pas là, une, c'est plusieurs individus contre une victime. On les voit là, se sauver, on présume que c'est un marteau dans la main, en tout cas ça a vraiment l'air d'être ça. Quand les policiers travaillent comme ça, j'imagine que là, c'est vraiment là du travail presque systématique, là, des entrevues, des rencontres avec le personnel de l'école, les parents, bref, comment est-ce que vous, comment le service de police s'organise dans ces cas-là?
Normalement, ce qu'on va faire, je ne sais pas si la victime est en mesure de parler. Il faut connaître c'est qui la victime. Parce que des fois, en connaissant la victime, ça peut nous aider à établir s'il y a un motif pour qu'il ait été attaqué. Donc, à ce moment-là, en ayant un motif, bien, il est facile de voir qui serait potentiellement des suspects. Et ensuite, on peut parler au personnel autour de l'école, les profs autour de l'école. Est-ce qu'il y a un conflit entre une gang ou une autre gang? Également, il peut y avoir des voisins. On a vu quelqu'un qui filme là. Est-ce qu'il y a d'autres caméras de surveillance autour de l'école Cadix-la-Vallée qui va permettre d'identifier ces individus? Puis, normalement, selon moi, en tout cas, les policiers, c'est certain qu'ils vont travailler d'arrache-pied pour être capables de procéder à leur arrestation. Mais lorsqu'on regarde, il y en a deux des quatre. On voit un qui a des pantalons rouges, puis l'autre un veston rouge. On n'est pas dans les Arsène Lupin de ce monde, là, en termes de technique de camouflage. Donc, je pense, selon moi, qu'on devrait être en mesure quand même assez rapidement de savoir qui sont ces personnes-là.
Oui, souvent, on dit souvent, je ne sais plus qui a dit ça, je me demande si c'est pas Alfred Hitchcock ou Sherlock Holmes, ou c'est l'imbécilité des criminels qui font que souvent, c'est pour ça qu'ils se font attraper. Mais dans un cas comme ça, d'abord, ça doit être une pression plus grande, là, parce que c'est beaucoup d'heures pour attraper quelqu'un, là, toutes les entrevues et autres.
C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, mais je dirais que ça, normalement, surtout lorsqu'on a un crime crapuleux comme ça. Je dirais, les policiers, il y en a plusieurs qui ont des enfants, et puis ils vont, à un moment donné, ils vont dire « Hey, ça pourrait peut-être être mon jeune, là, théoriquement. » Donc, à ce moment-là, on va mettre les bouchées doubles, et même si ça monopolise beaucoup de ressources. Ce que j'espère, c'est que si on arrête les individus, qu'on va tenir en compte, en fin de compte, à quel point là, cet acte barbare-là, et qu'on va les punir en conséquence. Ouais. Malheureusement, je trouve qu'on a tendance à être un peu trop, je dirais, compréhensif envers les personnes qui commettent des crimes, particulièrement de cette violence gratuite, comme on a vu.
Ça, parce que là, on ne présume pas de leur âge, mais il s'agit, en termes de code criminel, présumément d'une agression armée.
Ah oui, définitivement. Oui, c'est une agression armée. À partir du moment que ce soit un marteau, que ce soit un bâton ou quoi que ce soit, c'est effectivement une agression armée. Et en plus, à quatre sur la personne, on voit que la personne tombe par terre. On ne sait jamais la nature des blessures. On peut tuer quelqu'un de cette façon-là quand même assez facilement.
Donc, on pourrait tomber dans un homicide involontaire, même, ou sinon clairement d'un meurtre avec préméditation. Là.
Tout dépendamment de qu'est-ce qui a mené justement à l'acte.
Ouais. Dites-moi... Si, André Durocher, là, si quelqu'un avait vu quelque chose ou pense avoir des renseignements, qu'est-ce qu'il peut faire?
Moi, je les invite à communiquer avec le service de police ou avec Infocrime pour être capable, justement. C'est pas en fin de compte, hein, comme le disait la vieille Maxime d'Infocrime, ce qu'on veut, c'est pas votre nom, c'est votre information. Donc, n'importe qui aurait quelque information que ce soit, même si, par exemple, dans les minutes qui ont suivi, là, je disais, hey, je sais pas s'il y a cet événement-là, mais j'ai vu quatre jeunes qui étaient ensemble, puis il y en a un qui avait des pantalons rouges puis le veston rouge. Là. C'est peut-être lié à ça, mais je suis pas sûr, là, je devrais-tu les appeler ou pas. Gênez-vous pas, appelez.
Bon, ben, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. André Durocher, je rappelle, vous êtes inspecteur du SPVM à la retraite. Merci beaucoup, puis on espère que vos anciens collègues vont réussir très rapidement. Merci, au plaisir.
Je suis certain qu'ils vont mettre les affaires. Au revoir.
Passionné d'histoire, il raconte l'information du monde d'hier à aujourd'hui, une page à la fois. Guillaume Lavoie. Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver Guillaume Lavoie, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume.
Bon après-midi, Julie.
On va parler de chars d'assaut cet après-midi parce que le président américain a finalement confirmé l'envoi de 31 chars Abrams à l'Ukraine quelques heures après l'annonce de l'Allemagne. Mais ça a été compliqué avant d'aller de l'avant avec ces annonces. Pourquoi il y a plusieurs pays, l'Allemagne, les États-Unis, qui ont tardé, tergiversé? C'est difficile à comprendre tout ça.
Oui, alors d'abord, il y a deux types. Tous les chars ne sont pas égaux entre eux, on va y revenir, mais c'était d'abord le problème, c'était les chars, les fameux chars Léopard, de fabrication allemande. Et ces chars-là sont très répandus parmi les partenaires de l'OTAN, entre autres, donc déjà en Europe. La Pologne en a, la Finlande en possède également, mais et l'Allemagne, bien sûr, mais ils sont de fabrication allemande. Et dans les choses militaires, même le Canada en a d'ailleurs, dans les choses militaires, si vous voulez réexporter quelque chose qui a été fait par un autre pays, il faut avoir la permission du pays qui les a fabriqués. Alors, les Allemands sont, pour toutes sortes de facteurs, dont historiques, étaient un peu chatouilleux à l'idée d'avoir l'air d'être seuls dans l'aventure. Alors, les Allemands hésitaient beaucoup et la pression sur le chancelier allemand, Olaf Scholz, était énorme. Et là, finalement, l'Allemagne a dit « c'est correct ». Alors, ça libère la Pologne, ça va être tout de suite. On parle d'à peu près 18 chars. La Finlande va certainement suivre pas longtemps après. Mm-hmm. Le Canada, c'est loin d'être sûr. On n'en a pas tant que ça, ils sont pas en très bon état. Mais pour... il y a un peu de symbolique aussi, et c'est probablement ce qui a fait que les États-Unis changent un peu leur stratégie. Au départ, il avait dit les chars Abrams, là, d'abord, ils sont très, très lourds, ils sont énormes. Là. Ce sont vraiment les éléphants des chars d'assaut.
Il faut les traverser aussi.
Il faut les rentrer là-bas. Ils fonctionnent pas avec de l'essence ordinaire, mais littéralement avec de l'essence d'avion, parce que c'est un moteur d'avion qui propulse le truc. Ça prend plusieurs semaines de formation pour pouvoir l'opérer. Mais au-delà de ça, ça permet symboliquement de dire que l'Allemagne n'est pas seule, que les États-Unis aussi participent à la chose. Et la raison pourquoi tout ça est peut-être un peu important, c'est pas seulement le nombre de chars. Parce qu'à la limite, là, l'Ukraine dit qu'on aurait besoin entre 300 et 500 chars. C'est des centaines et des centaines de chars d'assaut du côté russe. Mais là, c'est peut-être le début de quelque chose d'infiniment plus important. Une rumeur circule comme quoi les Pays-Bas seraient prêts à mettre à la disposition de l'Ukraine des F-16, des avions de combat. Alors là, on voit véritablement là, une préparation à une offensive russe que l'on estime pour le printemps et on veut être prêt. On envoie des signaux, des symboles, des messages. Et on avait parlé ensemble, Julie, que dans la dernière année, le but, c'était que l'Ukraine ne perde pas. Probablement que là, on voit un changement vers l'Ukraine doit gagner et pour ça, il faudra être capable de repousser l'offensive russe qui se prépare, puis éventuellement de mettre les Russes dehors d'Ukraine.
Bon, est-ce que ces chars lourds, Guillaume, ça va vraiment faire la différence entre l'Ukraine serait sur le point de gagner vis-à-vis la Russie?
La réponse courte, c'est non. Parce que c'est trop peu. Par exemple, 18 chars, là, face aux centaines... Les 18 chars qui viendraient de la Pologne, face aux centaines et centaines de chars russes, même si les Léopards sont supérieurs, ce sera probablement pas assez. Mais c'est comme construire un mur en briques. C'est une brique de plus qui est très importante, qui va s'ajouter au reste, qui s'ajoute aux chars américains. Et là, si vous envoyez des chars, bien, vous continuez à envoyer tout le reste également. Alors, on voit véritablement que là, la coalition occidentale a décidé que, bien là, on lève tous les drapeaux et les résistances. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'y aller à fond et complètement. Et peut-être qu'on commence ce message-là avec des chars d'assaut.
L'Allemagne, l'hésitation de l'Allemagne, Guillaume, est-ce qu'il y a vraiment un risque de représailles de la part de la Russie vis-à-vis de l'Allemagne?
On pourrait en douter. Évidemment, tout est possible, mais l'Allemagne est un membre de plein droit de l'OTAN. Vous savez, l'OTAN, c'est une clause des mousquetaires. Là. Un pour tous, tous pour un. Attaquer un pouce carré de l'OTAN, c'est une attaque sur tous les membres de l'OTAN, dont les États-Unis, puissance nucléaire, dont la France, puissance nucléaire, dont la Grande-Bretagne, le Canada. Alors là, ça devient quelque chose qui changerait complètement la nature de la guerre. Alors, on pourrait comprendre les Allemands d'être inquiets, d'être préoccupés. Ils ont aussi une petite histoire là, d'engagement militaire qui les rend peut-être plus hésitants. Mais pour que Vladimir Poutine décide d'attaquer un pays de l'OTAN, ce serait mettre en jeu l'existence même de sa capacité de continuer à diriger la Russie.
Guillaume, c'est très clair. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
Au plaisir.
Salut.
C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci à toute l'équipe qui rend ça possible. On vous retrouve demain. Au plaisir.
Cube Radio.